vous invite à la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et nous lirons ensemble les 8 premiers versets. L'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1, au premier. Jésus leur dit une parabole sur la nécessité pour eux de prier constamment et de ne pas se décourager. Il leur dit, il y avait dans une ville un juge qui n'avait ni crainte de Dieu, ni respect des hommes. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Il s'y refusa longtemps. Et puis il se dit, « Même si je ne crains pas Dieu, ni ne respecte pas les hommes, eh bien, parce que cette veuve m'ennuie, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans fin me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce qu'il dit ce juge sans justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Et il les fait attendre. Il les fait attendre. Je vous le déclare, il leur fera justice bien vite. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. » Jusqu'ici, notre lecture. Venons de parler, nous sommes en pleine période de vacances d'été. Certains sont déjà en vacances et d'autres peut-être s'apprêtent à partir en vacances. Souvent, les vacances, c'est le temps aussi où on se repose et on se pose aussi, on se détend. Et parfois aussi, on relâche un peu la pression et on devient un peu, on devient moins vigilant. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais nous rappeler à tous l'une des vigilances à laquelle le Seigneur nous appelle, à savoir prier en tout le temps, prier sans cesse et prier avec persévérance pour toujours. Et pour cela, donc, j'ai choisi cette parabole de juge unique. Jésus vient de donner, au chapitre 17, du chapitre juste, le passage qui précède la lecture que nous venons de faire, vient de donner un enseignement à ses disciples sur le retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire sur son retour à lui, le retour dans la gloire, donc le retour de Jésus au chapitre 17, les versets 22 et suivants. Il leur dit l'importance de se préparer à ce retour. Pourquoi ? Parce que c'est un retour qui sera très soudain, qui sera même inattendu. Et pour leur faire comprendre le fait que ce retour sera inattendu et soudain, il leur donne l'exemple de Noé, hein, le déluge, le temps du déluge qui a surpris au temps de Noé, tous ceux qui vivaient à l'époque. Et donc Jésus va continuer son enseignement pendant cette première partie de ce chapitre en racontant deux autres paraboles, celle que nous venons de lire et une autre parabole par la suite du pharisien et du collecteur d'impôts sur le thème de la prière. Et ces deux paraboles donc, qui traitent de la prière, la première, Jésus va enseigner à ses disciples l'importance de prier jusqu'à la fin. Et la deuxième, il va leur dire l'importance de prier dans un bon esprit. Et donc, la manière de le faire. Mais aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer juste sur notre première parabole, sur prier jusqu'à la fin. Dans cette parabole, nous avons deux personnages, le juge unique ou injuste et la veuve. Jésus nous présente d'abord ce juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. C'est un juge qui n'était gouverné que par ses idées personnelles et ses penchants naturels. C'est un homme qui n'est sensible ni à ce qui vient d'en haut, ni à ce que peut lui dire ses semblables, ceux qui l'entourent. Autant dire qu'il est athée et impassible. Les deux descriptions données par Jésus montrent bien qu'il n'y a rien à faire face à cet homme. Il ne craint pas Dieu. Une expression, il est loin d'exercer ses responsabilités comme des responsabilités de magistrat selon la loi de Yahvé, la loi du Seigneur. Cela montre qu'il ne se préoccupait pas vraiment de la loi du Seigneur, et ni même d'ailleurs, aussi bien pour ses responsabilités de magistrat que pour sa propre vie. En effet, la loi de Moïse instaure les règles pour tout jugement, surtout lorsque celui-ci est rendu par un magistrat. Entre autres, le jugement doit être impartial, doit être équitable, doit être juste. Et d'ailleurs, lorsque le roi Josaphat va établir des juges en Juda, il leur donna des instructions suivantes en disant « Considérez ce que vous allez faire, car ce n'est pas selon l'homme que vous devez juger, mais selon le Seigneur qui sera avec vous dans cette fonction de jugement. Et maintenant, que la crainte du Seigneur soit avec vous, soit sur vous. Observez et pratiquez cela, car il n'y a chez le Seigneur, notre Dieu, ni injustice, ni partialité, ni corruption par des cadeaux. » Donc la crainte du Seigneur doit être au centre du jugement qui doit être rendu par les juges, selon la loi de Dieu. J'ai lu un passage dans 2 Chroniques au chapitre 19, les versets 6 à 7. Cette crainte exigée et rappelée par Josaphat n'habite pas le cœur de notre homme. Jésus prend le temps de nous dire justement que cet homme n'a pas la crainte de Dieu. Le juge de notre parabole est tout simplement opposé à un juge qui serait selon le cœur du Seigneur. Ce juge fait partie certainement de ces magistrats en Palestine du temps de Jésus qui étaient très corrompus. Et le Talmud évoque ces magistrats avec beaucoup, beaucoup de mépris. Il les accuse souvent d'ignorance et d'user d'arbitraire dans leurs décisions, de convoitise au point de pervertir la justice pour un plat de viande. Voilà un peu comment le Talmud, le commentaire à l'époque, donc les commentaires rabbiniques, comment il est traité. En plus donc de ne pas craindre Dieu, ce juge unique n'est pas non plus préoccupé vraiment par la vie de ses semblables. Il ne respectait personne, il ne respectait pas ce que les gens pourraient lui dire. En fait, ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, et il ne craint même pas de perdre l'estime sociale. Il joue pourtant dans cette société-là un rôle important dans l'équilibre de la société de l'époque. Et la parole ou le terme employé pour dire qu'il ne respectait pas peut vouloir dire qu'il ne revient pas sur lui-même d'une manière à rougir de honte face à une personne ou face à quelqu'un qui lui ferait comprendre qu'il est en tort. Il n'a d'égard pour personne, il ne respecte tout simplement personne. Et pourtant, dans cette culture, comme je disais tout à l'heure, une culture communautariste, le regard de la société est très important. Il pèse lourd, même parfois très lourd, dans les relations sociales. Mais rien à faire, notre juge reste imperméable aux regards, aux remarques et aux critiques de ses concitoyens. Rien ne le fait rougir venant de leur part. Ensemble, nous avons affaire à un homme qui ne se laisse attendrir ni par le ciel, ni par la terre. Le ciel ne peut rien contre lui, bien sûr, ce qu'il pense, parce qu'il n'y croit pas. Les hommes ne peuvent rien non plus, parce qu'il est fermé à eux. On ne peut plus le menacer par l'enfer, puisqu'il ne craint ni Dieu ni diable, et on ne peut pas l'apitoyer, il est de glace. C'est ni donc quelque chose qui viendrait dans une relation verticale ou horizontale ne peut rien faire contre cet homme. Il ne peut rien, ne peut opérer une brèche dans son personnage. Il est blindé, il est cuirassé, il est étanche, invulnérable, etc. Il a le droit, probablement il se prend pour le droit. En face de ce juge, nous avons une veuve. Une veuve qui ne demande rien d'autre que justice lui soit rendue. Elle venait vers le juge en lui disant « Rends-moi justice contre mon adversaire. » D'emblée, il faut préciser qu'il faut enlever, mettre à l'écart le malentendu que peut laisser entendre cette expression « Rends-moi justice contre mon adversaire. » La veuve n'est pas en train de demander la punition de son adversaire, mais simplement demande d'être délivrée de l'injustice dont elle est victime par une sentence juridique. Et comme le juge n'entend pas sa demande, n'entend pas sa prière, la veuve revient à la charge régulièrement. Elle venait régulièrement demander justice. Tout ce que le juge trouve à lui dire, à lui répondre, c'est justement de ne pas répondre s'il ne voulait pas, il ne veut pas, c'est son non-vouloir. Face à ce juge, la veuve n'a pas beaucoup de moyens. Elle n'a personne pour la défendre, ni des trésors pour corrompre le juge, mais seulement le droit, ce qu'elle vient demander. La veuve ici, il symbole même de la vulnérabilité, de la faiblesse, de la pauvreté, puisqu'elle manque de ressources. Parmi les veuves du temps de Jésus, certaines avaient des enfants, pourraient avoir des enfants qui pourraient les aider. Mais souvent, ces enfants sont très jeunes parce qu'elles-mêmes se mariaient très tôt, à l'âge de 14 ans, 15 ans. Et donc, souvent, elles sont veuves et les enfants sont encore en bas âge, donc incapables de les aider, incapables de leur apporter secours. Et le statut de veuve est fréquemment accompagné par une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité et pauvreté sociale. C'est pour cela que, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament mettent les veuves à côté des pauvres, des orphelins, des étrangers. C'est pourquoi, tout au long de la révélation biblique, Dieu porte une attention toute particulière à l'égard des veuves. Il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte habitation, écrit le psalmiste au psaume 68, verset 6. Ou encore, le Seigneur protège l'étranger, il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, écrit toujours le psalmiste au 146, verset 9. Le Seigneur assure une sévère punition à celui ou celle qui opprimera la veuve. Par la bouche du prophète Malachi, le Seigneur déclare « Je viendrai à vous en vue de jugement, je me hâterai d'être un témoin à charge contre les magiciens, contre les adultères, contre les parjures, contre ceux qui dépouillent l'ouvrier de son gain, contre ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, contre ceux qui violent le droit de l'immigré, ceux qui ne me révèrent pas, ne m'adorent pas, déclare le Seigneur des armées célestes. » Malachi 3, le verset 5. Il y a une masse énorme de textes dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament sur cette question, au point que la loi juive, au temps de Jésus, exigeait que les demandes aux magistrats, d'abord on étudie les demandes, premièrement les demandes de justice des orphelins soient étudiées premièrement, mais immédiatement suivies par les demandes des veuves. La veuve de notre parabole vient devant le juge justement pour plaider sa cause, une cause qui devait être prioritaire, qui devait être réglée très rapidement. Elle demande que justice soit faite, mais comme elle plaide devant un juge et comme elle plaide devant un juge insensible aussi bien à Dieu qu'aux hommes, donc cela ne se fera pas si rapidement que cela. Pendant un temps, précise le verset 4, le juge n'a pas voulu donner suite favorable à la demande de la veuve. Cette situation n'était pas rare au temps de Jésus, vu le nombre important de magistrats locaux, d'après certaines sources, qui étaient corrompus à l'époque. Et en racontant cette parabole, Jésus probablement fait allusion à des situations connues par ses auditeurs. Les auditeurs de Jésus, en entendant cette histoire, devaient se dire probablement « Voilà une histoire qui finira comme toutes les autres, où les puissants l'emportent sur les faibles, même au détriment de la justice. » Ils devaient se dire « Pauvre veuve, elle n'a rien à faire sinon accepter le sort qui lui est réservé. » Des auditeurs qui ont tellement entendu et tellement vu qu'il ne croyait plus à une autre issue que celle connue de tous et dans les cas pareils, c'est-à-dire la victoire des puissants, la défaite des pauvres. Et pour les auditeurs de Jésus, la partie, en fait, est tout simplement déjà jouée. Mais la veuve ne l'entend pas du tout de cette oreille. La veuve de notre parabole ne va pas abandonner si facilement, si rapidement la partie. Elle ne s'est pas arrêtée à la situation qui était humainement parlant bien désespérée, car elle ne pouvait s'attendre, en effet, elle ne pouvait s'attendre ni à la justice de cet homme, ni à son sens moral et encore moins à sa crainte de Dieu. Mais la veuve va persévérer contre vents et marées, et elle a persisté, elle persiste, en revenant régulièrement à charge, au point de commencer à faire peur au juge. En effet, le juge a eu peur, non pas que la veuve pauvre, elle n'a pas eu peur que la veuve pauvre le frappe, et encore moins de condamner. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Mais il a eu peur que cette veuve lui casse la tête tous les jours. C'est ça ce qui le dérange. En fait, il dit que le juge avait peur que la veuve vienne frapper sous les yeux. Enfin, si on traduit un petit peu littéralement. Mais frapper sous les yeux, c'est une manière de dire lui casser la tête, l'importuner, presque le persécuter passivement. Et le juge donc finit par répondre favorablement à la demande de la veuve, non pas parce que cette veuve a apporté des éléments nouveaux à sa demande ou à son dossier, mais simplement, et c'est pas encore parce que cet homme a eu pitié d'elle, mais c'est tout simplement parce que cet homme veut avoir la paix et ne plus entendre parler de cette veuve, et voilà ce qui motive l'exaucement de la demande, l'exaucement qu'il va accorder à cette veuve. Le juge de notre histoire, dit le texte, est entré en lui-même enfin. Mais ce retour sur soi est loin de produire le même retour qu'est le retour chez soi qui s'est produit chez le fils prodigue. Chez le fils prodigue, le retour sur soi l'a conduit à une véritable repentance. C'est dans Luc chapitre 15. Mais chez le juge unique, ce retour l'a conduit à se rappeler une fois de plus qu'il ne craint ni Dieu et ne respecte pas les hommes. Si le juge cède à la veuve, c'est simplement, ce n'est pas par pitié, c'est encore moins par souci professionnel, mais c'est simplement pour qu'il ne soit plus dérangé, en d'autres termes, par pur égoïsme. Voilà donc ce qui motive, ce qui a conduit le juge à répondre à la veuve. Mais il faut signaler ici que la persévérance de cette veuve a fini par porter ses fruits. Elle est exaucée. La persévérance de cette veuve a opéré un changement radical, un changement extraordinaire dans cette situation. Le juge qui était invincible jusqu'alors a fini par céder face à la persévérance de la veuve. Et pour l'application de cette parabole, c'est Jésus lui-même qui nous offre l'application. C'est Jésus qui nous la donne. Si ce juge inique, injuste, a fini par rendre justice à cette veuve, à plus forte raison, Dieu rendra justice à ses élus qui crient vers lui, qui prient vers lui jour et nuit. Déjà au verset 1, Luc pose le cadre de cette parabole. Le but de cette parabole est déjà dit au verset 1. Il dit: c'est pour montrer aux disciples qu'il faut prier jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la fin. Et pour souligner la valeur de cette prière persévérante, Jésus accentue d'une manière remarquable les traits de ce juge inique. Et grâce à sa prière persévérante, la veuve obtient une réponse à sa demande auprès de ce juge, bien que celui-ci est dénué de tout sentiment de devoir. L'attitude de ce juge, qui ne craint ni Dieu ni les hommes, ne fait que mettre en valeur d'une manière remarquable la persévérance de la veuve dans sa prière. Le cadre de cette parabole posée au premier verset explicite clairement l'enseignement que Jésus veut laisser. Jésus dit à ses disciples une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne pas se décourager. Par cette parabole, Jésus invite les disciples à persévérer jusqu'au bout dans leur prière et dans leur attente de l'intervention de justes juges dans dans l'attente de l'intervention de juste juge, cette intervention qui se fera d'une manière ultime lors du retour du Fils de l'homme, qui rendra d'une manière parfaite la justice. Dans cette attente, les disciples doivent prier en tout temps, toujours, persévérer dans la prière et ne pas se décourager pendant cette période qui les sépare de l'intervention du Seigneur. Les interventions aussi bien ici-bas, c'est-à-dire les interventions, les délivrances dont nous avons besoin ici, mais aussi l'intervention et la délivrance que nous attendons le jour de son retour. À la suite de l'apôtre, Jésus, c'est l'apôtre Paul qui, à son tour aussi, invite les chrétiens régulièrement de prier à une prière constante et à une prière persévérante. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse, persévérant dans la prière, dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome, Romains 12, 12. Et puis persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce, Colossiens 4. Et nous pouvons bien entendu citer encore bien des textes de l'apôtre Paul du Nouveau Testament qui invitent à une prière persévérante. Face à une certaine hostilité, face à l'adversité aussi bien naturelle que spirituelle, le découragement peut très vite gagner notre cœur. Certaines souffrances de la vie, certaines épreuves particulières auxquelles certains font face, comme les maladies graves par exemple, peuvent nous placer dans un certain fatalisme et finir par accepter les choses et dire pourquoi pas, les choses peuvent suivre avant tout leur cours sans opposer une certaine résistance. Mais là aussi, nous devons nous rappeler des encouragements de l'apôtre Paul, les encouragements qu'il a adressés pour les chrétiens de Corinthe. Au chapitre 4, il dit « C'est pourquoi ne nous perdons pas courage, et même si notre extérieur, notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire éternelle, la gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur des choses visibles, mais sur des réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. L'une des gloires à venir, c'est le retour de notre Seigneur pour juger les morts et les vivants. Tous les peuples de la terre se présenteront à ce rendez-vous. Ils devront rendre compte de leurs actes. Chacun sera jugé pour ses actes. En ce jour-là, tout est mis en lumière. Rien ne lui est caché. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout ce qui se passe dans le secret, car ses yeux sont comme une torche qui inonde de lumière tous les recoins de la terre, de la vie de ses enfants. Le juste juge, le Seigneur, voit toutes les souffrances infligées à son peuple. Il voit aussi toutes les injustices dont son peuple est victime. Ce juste juge voit tout et connaît toutes choses au jour de jugement. Personne ne peut se plaindre d'erreurs judiciaires ou de manque d'informations. Toutes les pièces de dossier seront connues. Les élus du Seigneur peuvent être sûrs et certains que même les injustices en leur encontre commises dans le secret, en cachette, sont vues, sont connues par le Seigneur. En ce jour-là, le Seigneur rendra justice. Si le juge unique a fini par rendre justice à la veuve, à plus forte raison, le juste juge, lorsqu'il interviendra en réponse aux cris de ses enfants qui montent vers lui dans l'intercession, dans des prières de supplication. Avant d'aborder cette intervention de juste juge, qui n'est autre que le Seigneur lui-même, que Dieu lui-même, il nous faut régler maintenant une question qui peut nous causer problème à notre esprit de croyant. C'est de dire comment se fait-il que Jésus ose comparer Dieu, le juste juge, à un juge inique. Certains étaient même scandalisés par cette comparaison de Jésus. Et scandalisés que Jésus fasse cette comparaison. Car en effet, tout oppose Dieu et ce juge inique. Dieu est juste dans tous ses jugements, mais ce juge inique, il est injuste dans tous ces, dans, en tout cas, dans le jugement dont il est question dans notre histoire. Comment comprendre cela? Il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à comprendre. Le premier, c'est le fait de dire que dans une comparaison, quand on fait une comparaison, il y a des éléments qu'on peut comparer, mais il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas comparer. Si on fait une comparaison, c'est pour faire ressortir les éléments qui se ressemblent et les éléments, justement, qui s'opposent ou qui ne se ressemblent pas. Pour les points de convergence, peut-être le seul point de convergence, c'est que Dieu est appelé juge et cet homme, ce juge est appelé aussi, c'est un juge. Peut-être la comparaison s'arrêterait là, entre les deux. Quant au point de divergence entre eux, ils sont vraiment nombreux, à commencer par la justice, la manière de rendre la justice. Le juste juge la rend d'une manière injuste et Dieu la rend d'une manière juste. En plus de cela, si on veut aller encore relever un autre point de comparaison, de divergence, le juste juge visiblement rend la justice d'une manière sans aucune compassion, alors que Dieu rend la justice avec compassion, en particulier vis-à-vis des veuves, puisque ce juge inique ne considère pas du tout la situation de cette veuve, n'a pas compassion de cette veuve, alors que le Seigneur a pris le temps tout au long de l'Ancien Testament de nous montrer, de nous dire explicitement la compassion qu'il a pour les veuves. Donc, les divergences, la liste peut encore s'allonger des divergences entre les deux. Mais le deuxième élément qui peut faire comprendre aussi cette comparaison, c'est un raisonnement très utilisé à l'époque par les rabbins, le raisonnement a fortiori. Voici le raisonnement. C'est le juge inique a fini par rendre justice à la veuve, à plus forte raison, le juste juge rendra justice à ses élus qui crient vers lui. Si la veuve, donc la deuxième implication de ce raisonnement, c'est si la veuve qui se trouvait dans une situation très défavorable a fini par être exaucée, à plus forte raison, les croyants qui se trouvent dans une situation très favorable parce qu'ils s'adressent à leur Père, à leur Dieu, ils sont des élus. Ce ne sont pas n'importe qui, ils sont des élus choisis par le Seigneur. Jésus le dit, je vous le déclare, Dieu leur fera justice bien vite. Donc la comparaison entre le juge inique et le juste juge vise à souligner l'assurance que nous devons avoir dans l'intervention de notre Dieu en notre faveur. Cette intervention est caractérisée par deux éléments. Elle est certaine d'une part, et d'autre part, il y a une attente avant sa réalisation. Elle est certaine parce que la venue de juste juge est parce que Dieu viendra et rendra justice à chacun. Et cette intervention sera soudaine, sera rapide. C'est l'enseignement que Jésus avait donné déjà au chapitre 17, la fin des versets que j'ai souligné tout à l'heure. L'intervention du Seigneur viendra comme est venu le déluge, par surprise. Et l'apôtre Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. La venue du Seigneur sera comme un voleur, dit l'apôtre Pierre. Mais avant cette intervention-là du Seigneur, il faut noter un temps d'attente. Une période qui peut être vue comme une période d'inaction de Dieu. Mais c'est juste une apparence et il ne faut pas se tromper. Dieu ne reste pas les bras croisés, mais il œuvre. Il œuvre et Dieu viendra. Le temps, l'heure venue, il interviendra. Pourquoi cette période d'attente, surtout lorsqu'elle est difficile, surtout lorsqu'elle est pénible à supporter pour les élus de Dieu, pour les bien-aimés du Seigneur? Il y en a bien sûr plusieurs. J'aimerais dire la première, c'est aussi une manière que le Seigneur, cette attente permet à des hommes, à ceux qui font pas peut-être encore, ceux qui n'ont pas encore répondu favorablement à l'appel du Seigneur, de le faire. Ça permet donc aux uns et aux autres de parvenir à la connaissance de Jésus, de parvenir à la connaissance du Seigneur pour justement être au bénéfice de la justification que ce juge leur accordera grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. La deuxième raison que je peux aussi suggérer, c'est aussi les fidèles, c'est la vie, l'œuvre de Dieu dans notre vie de croyants. Dans ces périodes où nous attendons l'intervention du Seigneur, et lorsque je parle d'intervention du Seigneur, bien sûr, de l'intervention finale du Seigneur, mais aussi des interventions au quotidien du Seigneur dont nous avons besoin, le Seigneur travaille notre persévérance, travaille notre patience, travaille notre caractère, travaille notre être intérieur. Le Seigneur se sert aussi de ces périodes d'attente, de ces périodes d'épreuves, souvent difficiles à vivre, pour nous façonner, pour nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes encouragés par le Seigneur lui-même à persévérer dans notre attente de l'intervention du Seigneur au jour de son retour, de persévérer dans notre attente, dans les exaucements du Seigneur, de tous ces cris, de toutes ces prières de supplication que nous faisons monter vers lui, persévérant avec l'aide du Seigneur, persévérant, tel est l'encouragement que le Seigneur nous adresse. L'encouragement à la persévérance est à prendre au sérieux, parce que Jésus exprime, en plus de l'assurance de son intervention, une inquiétude à la fin du verset 8. Jésus exprime une inquiétude en disant « Persévérez, l'intervention du Seigneur sera certaine, vous n'avez pas à craindre sur l'intervention du Seigneur, et son intervention sera au bon moment, sera à l'heure. Par contre, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi encore sur la terre ?» À la lumière du contexte, Jésus appelle ses disciples à persévérer dans la prière jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au jour du jugement où le juste juge rendra justice à chacun. Car les temps de la fin seront marqués par des souffrances, par diverses douleurs, et Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples. Vous entendrez parler des guerres, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi, à cause de cela. Beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra jusqu'au bout, jusqu'à la fin, celui qui tiendra sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples on entende le témoignage, alors seulement viendra la fin. Voici la parole que Jésus a laissée à ses disciples dont je citais le discours de Matthieu 24, les versets 6 à 14. Dans cette annonce de Jésus, il est question de douleur, de persécution, il est question d'abandon de foi, de beaucoup, de l'amour d'un grand nombre de personnes qui se refroidira. Voilà pourquoi Jésus nous encourage à tenir bon, à persévérer jusqu'au bout, comme la veuve a persévéré jusqu'à la fin. Face à l'adversité, face à l'opposition. En plus de résister jusqu'à la fin, il y a aussi une autre persévérance que nous sommes encouragés à développer, c'est la persévérance au quotidien. Il y a des sujets de prière que nous présentons au Seigneur depuis un moment et nous ne voyons pas encore l'intervention du Seigneur. Nous n'avons pas encore goûté à la délivrance du Seigneur pour ces sujets. Ces épreuves qui durent des mois, des années, voire des décennies, comment persévérer? Comment s'attendre à la délivrance du Seigneur lorsque tous les moyens ont été mis en œuvre, mais rien n'a changé? Rien n'a changé. L'exemple de la veuve, là aussi, la veuve dans notre parabole, peut nous être très très utile. Elle aussi est revenue régulièrement plaider sa cause, pas seulement une fois, pas deux fois, pas deux fois, mais bien plusieurs fois, parce que pour fléchir le cœur d'un tel homme qui ne craint ni les hommes ni Dieu, il faut beaucoup plus de persévérance qu'une simple demande, aucune demande qui dure un temps. Elle venait sans cesse l'aider sa cause. Et j'aimerais nous encourager, et tout particulièrement encourager ceux d'entre nous peut-être qui traversent, qui attendent des délivrances spécifiques du Seigneur, des délivrances particulières. J'aimerais nous encourager à tenir encore bon, parce que nous ne savons pas si c'est tout à l'heure, demain, après-demain, peut-être pas, peut-être l'année prochaine, que la délivrance viendra, que l'intervention de Dieu viendra pour ce sujet précis pour lequel nous lui avons fait monter nos prières et nos cris dans la prière et dans la supplication. Dans tous les cas, nous sommes encouragés à persévérer, à attendre le Seigneur en toutes choses. Par cette parabole, Jésus enseigne de prier jusqu'au bout et il invite à veiller, à prier. Il nous encourage à ne pas baisser les bras face à l'hostilité, aux difficultés, aux épreuves que nous pouvons rencontrer sur notre chemin vers lui. Soyons certains que chacun de ces combats, chacune de ces injustices dont nous pouvons être victimes ne sont pas cachées aux yeux de notre Seigneur. Soyons certains aussi que le Seigneur interviendra. Lui, dont même nos cheveux, les cheveux de nos têtes sont tous comptés, il dit « N'ayez crainte, n'ayez aucune crainte, car le Seigneur interviendra au temps opportun, au temps voulu, aussi bien pour les interventions dont nous avons besoin lors de notre parcours, que pour l'intervention finale où sa justice sera rendue. Mais en attendant ce temps, en attendant ces réponses du Seigneur, nous sommes invités à persévérer dans la prière et à ne pas perdre courage. »